Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Des journées de nervosité dans le monde bancaire. La semaine passée a fini aux États-Unis. En fait, on était vraiment dans le domaine des technologies. La Silicon Valley Bank qui avait fait faillite, ensuite la Signature Bank. Il n'y avait pas eu de faillite de banque aux États-Unis depuis la crise financière de 2008-2009 où Lehman Brothers avait fait faillite à ce moment-là. Et là, ben autre affaire, ça s'est passé pour nous un peu durant la nuit en Europe. Crédit Suisse, une des grandes banques du monde écoutez, les actions de Crédit Suisse avaient déjà perdu 80% de leur valeur dans la dernière décennie ou à peu près. Mais là, aujourd'hui, l'action de Crédit Suisse est descendue en bas de 2 piastres. Crédit Suisse, donc, qui a pas eu l'appui qu'on espérait du côté de l'Arabie Saoudite, où on était rendu là à espérer de l'investissement de sauvetage de l'Arabie Saoudite. Et quand les Saoudiens ont dit non, ben là, Crédit Suisse, c'est qui est maintenant en difficulté. On rejoint toute l'équipe de 100% Nouvelles immédiatement.
15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
Bonjour.
Fiasco à la SAAC, la pression se poursuit. Les partis d'opposition, c'est comme si on essayait de chercher un des ou une coupable. On va écouter ce que le premier ministre François Legault avait à dire là-dessus.
À ma part de responsabilité dans la mauvaise planification de la SAAC et dans les prochaines semaines, je vais agir en conséquence pour m'assurer que plus jamais il y ait des files d'attente comme on a vu depuis une semaine ou deux.
Mario, qui devrait être nerveux? Mme Guilbeault, M. Kerr, le PDG de la SAAC, conseil d'administration?
Ben, je vais te rappeler l'ordre dans lequel les choses sont faites. C'est le conseil des ministres qui nomme et dégomme les gens des sociétés d'État. Donc, sachant ça, qui est plus en danger, d'après moi, c'est celui-là qui est nommé et non pas celui qui nomme. Écoute...
Monsieur Marcellet.
Oui, la direction de la SAAC. Quoique Monsieur Marcellet, bon, je pense qu'il vient de se planter avec la SAAC. Il a toute une carrière. C'est l'ancien président de la Chambre des notaires. Moi, je l'ai connu à cette époque-là. Qui a eu ensuite une brillante carrière. Il a été coroner, a été sous-ministre dans différents ministères. Il n'est pas arrivé à la SAAC par accident. Il n'est pas arrivé par les voies partisanes. C'est quelqu'un qui a eu vraiment une brillante carrière. Tu sais, est-ce que peut-être que si on entendait sa version, lui, il s'arrache les cheveux, puis il dit « Colin, moi, les gens d'informatique m'ont dit tout est correct, je leur ai posé la question 100 fois. » Tu sais, on le sait pas, là. Ça arrive tellement souvent, des problèmes informatiques comme ça, que ça nous sort des mains. Puis en plus, ben il y a tout le processus d'authentification gouvernementale. Ça, c'est pas le SAAC. Ça, c'est vraiment Éric Kerr. Donc moi, je pense qu'à la fin... François Legault veut garder tout le monde sur le qui-vive. Je pense qu'il veut garder aussi sa réputation. Il l'a fait dans le secteur de la santé. Souviens-toi, c'est pas arrivé souvent là, au gouvernement, des gens qui se font mettre dehors. Mais après, pendant et après la pandémie, il y a des PDG de CIS et CIUS qui ont été remerciés. On est capable de faire ça du côté de François Legault. Il n'est pas dit qu'on le refera pas à la SAAC, mais je pense pour l'instant, il veut garder tout le monde sur le qui-vive, protéger un peu ses ministres. Je sais pas, pour le ministre Éric Kerr, d'abord, à mon avis, Geneviève Guilbeault, elle s'en est vraiment pas trop mal sorti. Je pense que jusqu'à maintenant. Puis là, ça a quand même l'air à se placer un peu à la SAAC. Tu sais, on a plus les grosses files. Éric Kerr a un peu sauvé, là, par sa mauvaise sortie publique, a un peu sauvé Geneviève Guilbeault, enlevé la pression sur Geneviève Guilbeault, et lui a pris toute la pression. Et là, c'est sur lui que les partis d'opposition tapent. Ce qui l'avantage en cas de remaniement ministériel, c'est que là, il vient de se planter, mais l'informatique, il connaît ça quand même. C'est un ministère super spécialisé où pas grand monde, je pense, pour avoir une note parfaite si on regarde à Ottawa, à Québec, partout, comment c'est compliqué l'informatique des gouvernements. Et Éric Kerr, lui-même, c'est son domaine. La sécurité informatique, la programmation informatique, c'est son métier, c'est son domaine. Il a passé sa vie là-dedans. Fait que ça fait, à mon avis, qu'il est un peu moins en danger dans le cadre d'un éventuel remaniement. Je pense pas qu'il y ait une autre personne disponible à côté dont on dirait hey, lui ou elle serait vraiment meilleur dans ce domaine-là. Mais ça... C'est-à-dire, on le voit, là, tu sais, François Legault, là, il est pas vraiment cachotier de la face. Quand il est pas content, ça, il est pas capable de le cacher, ça paraît. Ouais, et c'est évident que cette affaire-là, là, lui, là, de l'inefficacité, voir du monde en fil, ça l'énerve au suprême degré. Mais il défend quand même ses ministres là-dedans. Et je pense que c'est ce qui le pousse à envoyer. Tu sais, lui, dans le fond, il prend le problème puis il met ses épaules des fonctionnaires de la SAC.
Et d'ailleurs, M. Kerr vient de dire, concernant les impôts, il n'y aura pas de problème avec Clic Sécur. Ça relève du revenu Québec. Alors, pour que tu en sois rassuré. Mario, la CAQ refuse cette motion qui a été déposée par les libéraux sur la liberté de presse. Ça fait beaucoup réagir. On va écouter ensemble ce que ça a donné.
Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, que l'Assemblée nationale déclare que la liberté de presse est un fondement de toute société démocratique, qu'elle rappelle l'importance pour tout membre de l'Assemblée nationale d'éviter de remettre en cause ce principe en s'attaquant personnellement à des journalistes.
Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint? Pas de consentement?
Oui. Pas avoir une contre-motion pour la liberté de la presse, hein?
Monsieur Dieben, êtes-vous sérieux de dévoiler les sources journalistiques hier?
Non, ce que je disais, c'est que moi, je donne l'importance, quand on m'attaque, je donne l'importance à ceux que je peux voir.
Oui, mais les sources journalistiques, ça, c'est sacré,
pas,
là.
C'est votre métier, je suis d'accord avec vous. Moi, je donne pas l'importance s'il n'y a pas de source.
Est-ce que vous avez mis hier pour pouvoir débattre de la motion sur la liberté de presse?
C'est bon, on va aller au salon.
Alors, Mario, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est M. Fitzgibbon. Ça fait suite à ce reportage du bureau d'enquête. Bon, Nicolas Lachance y a participé, Félix Séguin, Antoine Robitaille, samedi. Sur M. Fitzgibbon, il y en a certains qui trouvent qu'il y a trop de pouvoir. Ce serait le seul ministre à pouvoir assister au Conseil des ministres avec son cellulaire. Et à la suite de la publication de ce papier, M. Fitzgibbon a dit, « Moi, là, ceux qui m'aiment pas, mais qui veulent pas se nommer, je n'accorde pas d'importance à leur crédibilité. » Je sais que tu as fait un papier là-dessus, Mario, « Le mariage pour le meilleur et pour le pire. » Es-tu toujours du même avis?
Ben oui, tout à fait. Pourquoi, en fait, c'est la réponse à la question, pourquoi François Legault vit avec Pierre Fitzgibbon, avec les problèmes qui viennent avec, puis mon image, c'était le mariage pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est exactement ce que je pense. Bon, sur la motion, tous les jours, essentiellement, le gouvernement refuse trois motions. Là. Chacun, c'est comme devenu un jeu. Chacun des partis d'opposition fait une motion pour que le gouvernement la refuse, pour pouvoir dire, ils ont refusé de parler des garderies, ils ont refusé de parler de ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais tous les jours, le gouvernement essentiellement refuse trois motions. Une des libéraux, une du PQ, une de Québec solidaire, là, c'est à peu près devenu la norme. Celle-là, il y avait quand même quelque chose dans la motion des libéraux qu'un élu peut pas critiquer un journaliste et tout ça. Je veux dire, moi, on est dans un monde de liberté d'expression des deux bords. Les journalistes font leur travail, ils ont un travail à faire. Les journalistes ont le devoir de répondre aux questions de fait des journalistes. Mais moi, sincèrement, j'ai l'humilité. Quand j'écris une chronique, là, les élus de tout parti ont entièrement le droit de dire que c'est une chronique de merde, qu'ils sont totalement en désaccord. Je veux dire, la liberté d'expression va dans tous les sens et c'est pas interdit. Moi, quand j'étais en politique, je veux dire, j'ai critiqué les médias en masse dans bien des cas qui me faisaient des jobs terribles et j'hésiterai pas à leur faire. Si je retournerai en politique, je vous annonce déjà mes couleurs. Quand un journaliste ou quand un médium ferait un job sale, je le dirai. Fait que tu sais, t'as le droit, là. T'es pas. C'est pas vrai, là. Je comprends que nous, dans les médias, on se voit. Non, on a un travail à faire, un travail d'information, de faire connaître les faits, de fouiller, d'amener des points, de critiquer. Mais c'est pas vrai, là, que les élus n'ont pas le droit de se défendre ou de questionner. C'est juste que dans le cas de M. Fitzgibbon, la question est pas est-ce qu'il a le droit de commenter le travail du journal ou pas, etc. La question, c'est bien plus, tu sais, dans le fond, à la CAQ, là, il est comme tout seul un peu dans son camp, toujours dans le trouble, en chicane avec un journal, etc. Et ça, c'est ça qui fatigue certains de ses collègues, là. Certains de ses collègues se disent même, ben, t'sais, certains de ses collègues se disent il est le seul à pouvoir amener son cellulaire au Conseil des ministres, ça les fatigue. Mais certains de ses collègues se disent aussi, Julie, si moi je mettais le parti, là, dans le trouble à répétition, dans le Journal de Montréal ou dans le Devoir ou dans la presse, j'aurais le cabinet du chef sur le dos, j'aurais des réprimandes, on me restreindrait mes droits de parole, on m'empêcherait de faire des points de presse dans les corridors de l'Assemblée. Puis là encore, dire, ah ben, Pierre, lui, comme ils disent, Fitz, il a tous les droits. Pierre, c'est ça qui, c'est ça le sentiment, là.
Deux poids, deux mesures. Ouais. Bon, nouvelle offensive, Mario, pour tenter de freiner le déclin du français. Et Québec, il y va avec cette publicité. On va l'écouter.
Le faucon pèlerin. cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Mario, est-ce que tu penses qu'elle va avoir son effet?
Je trouve ça nul.
Ah oui?
Ben, ouais.
Pourquoi?
Je sais pas quoi. D'abord moi, j'aime non, pas
t'entends
ça.
T'entends pas les jeunes, même oui. Les adultes, parler avec oui. Et emprunter ces mots-là?
Oui, je l'entends que les jeunes parlent comme ça. Je dirais pas que ça me plaît. C'est pas quelque chose que j'encouragerais. Mm-hmm. Mais moi, je pense pas que c'est ça la menace aux Français. Sincèrement, si tu me demandes la vraie menace aux Français, les jeunes qui parlent comme ça, ils parlent quand même français. Puis c'est pour moi, c'est pas la menace principale aux Français. Avec déjà, je trouve qu'on s'attaque pas à bonne cible. Deuxièmement, je pense pas que ça va empêcher. Les jeunes vont trouver ça drôle. Puis troisièmement, c'est même pas vrai. Le faucon pèlerin a été enlevé il y a quelques années. Il y a des espèces en voie de disparition. Fait que l'avenir du faucon pèlerin est même pas sketch.
OK, fait que tu l'aurais wordé différemment.
Ouais, ben non, mais en tout cas...
Moi, ça me fait penser, Mario, parce qu'à Moncton, ils utilisent beaucoup le franglais, et c'est saisissant, parce qu'ils vont dire « ça me fait mal, ça me faisait comme un scotch sur mon chair ». Et moi, quand j'entends les jeunes, même ouais. Les adultes, qui empruntent l'anglais, qu'ils mélangent au français, ça me fait vraiment penser au chiac, au franglais.
Je comprends un peu, mais d'abord, je pense pas que c'est efficace. Je pense pas que c'est une campagne qui va avoir l'effet recherché. Mais regarde, tu sais, une publicité, il n'y a rien de plus subjectif que ça. Moi, je la regarde, elle me touche pas. Je pense qu'elle va toucher encore 10 fois moins les jeunes qui parlent comme ça. Et puis, je pense pas. En plus, moi, si tu me demandes, je regarde les statistiques, puis je les ai étudiées, là, les statistiques de l'Office de la langue française, le français au travail, la langue maternelle, l'immigration, quelle langue adoptent les nouveaux arrivants. Moi, je vois plein de zones de danger pour l'avenir du français. Moins cela. Je répète, j'aime pas ça que les jeunes parlent comme ça. Si tu me disais, il y a une solution miracle pour repartir la tendance de l'autre bord, là, je dirais oui. Ouais. Mais là, à mon avis, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Là. C'est le faucon pèlerin dans qui l'eau. Saute, puis la souris se tasse à la dernière minute.
Marion, en terminant, Silicon Valley Bank fait faillite. Là, cette fois, c'est le groupe bancaire Crédit Suisse en Europe qui connaît d'importantes difficultés financières. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Je sais que tu es économiste de formation.
Oui, c'est tannant. Mais je veux dire, c'est parce que l'argent est dans les banques. Là, fait qu'il n'y a rien sur le plan financier, puis il n'y a rien sur le plan de la stabilité économique qui est plus inquiétant que les banques. Crédit Suisse, je lisais ce matin, tu sais, Lehman Brothers, la banque qui avait pété aux frettes, qui avait parti la crise financière en 2008-2009, je pense que Crédit Suisse, c'est 8 fois plus gros. Bon, Crédit Suisse n'a pas encore viré à l'envers, mais un matin, les actions de Crédit Suisse se vendaient en bas de 2$ l'action. C'est une banque qui a pris des risques depuis des années, qui va assez mal. Là. C'est pas d'hier que ça va mal, mais là, ce matin, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'il y avait ils espéraient être sauvés, être refinancés, Crédit Suisse, par des nouveaux actionnaires saoudiens. Puis quand les Saoudiens ont dit, nous autres, on est rendu à 9%, 9,5% dans la banque Crédit Suisse, ça va être tout pour le moment. Ça a fait paniquer les marchés, là, qu'ils soient pas refinancés. Donc, écoute, les marchés sont hyper nerveux. La seule affaire, là, pour si je peux faire tout un chemin pour les détenteurs de prêts hypothécaires ici, ça diminue encore probablement. Là, tout le monde capote. On a peut-être trop augmenté les taux d'intérêt. On est en train de faire sauter le monde bancaire. Donc, la probabilité que vos taux d'intérêt sur vos hypothèques augmentent encore cette année au Canada, qui était déjà faible parce que la Banque du Canada l'avait dit, à mon avis, est encore plus faible. Peut-être même qu'on peut rêver à des baisses plus tôt que prévu, parce que là, les banques centrales se disent qu'on est peut-être allé un peu loin.
Oui, on va voir avec la Fed mercredi prochain. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bon après-midi à toi. Salut.
Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
L'exercice lui-même,
Mario Dumont,
va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
Gérez donc ça, s'il vous plaît.
Isabelle Maréchal.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
C'est une grosse journée pour toi parce que plusieurs fois en abordant par la bande des sujets d'économie et de finances personnelles, tu nous parlais de ce documentaire que tu préparais
oui.
sur ce thème chaud, tant discuté, le sort de la classe moyenne.
Oui, puis
mais c'est aujourd'hui.
Et je suis ravie parce que ça fait beaucoup jaser.
Oui, vraiment.
Et pourquoi? Je pense parce que la classe moyenne se sent interpellée. Et pourquoi on parle autant de la classe moyenne? Parce que la taille de la classe moyenne est souvent associée, avec raison, au degré de prospérité économique d'une société. Une classe moyenne forte témoigne d'une société démocratique en santé. Alors, c'est important que la classe moyenne vive bien. Or, ce que je me suis rendu compte au Québec depuis les dernières années, puis tu vois, c'est drôle parce que moi, ce documentaire-là, je travaille dessus depuis 3 ans. Enfin, l'idée, j'ai remis la recherche et tout, puis là, est arrivée la pandémie. Ensuite, cette inflation à peu près dans tous les secteurs de notre économie qui a empiré la situation.
Ah ben c'est sûr que l'inflation a changé la discussion sur le vécu de la classe moyenne.
Complètement. Et là,
les taux d'intérêt aussi.
Ben les taux d'intérêt, clairement. Toute cette inflation, le logement, les deux postes plus importants, on le sait, là, c'est le logement, l'alimentation. Ensuite, c'est le transport. C'est là où les gens mettent le plus leur argent. Et moi, je me dis, avec ce qui nous reste dans les poches, là, comme les travailleurs moyens au Québec, ils arrivent comment? Comment ils font pour arriver? C'est une vraie question que je me posais aussi parce que depuis plusieurs années, les gens disait avoir l'impression d'être à bout de souffle, de travailler, mais de ne pas en avoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Écoute, les Québécois, on le sait, ils ont à peu près 500$ en avant d'eux. S'il leur arrive quelque chose, là, faut, ton toit coule, hein, puis il faut... tu vas me dire, t'appelles ton assurance, c'est qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Combien de fois on voit dans le journal de Montréal des gens, là, incendie, ils ont tout perdu, ils n'étaient pas assurés, se retrouvent à la rue. Des gens à la rue, il y en a aussi parce que la situation du logement est telle que les gens se font évincer de leur logement. On s'en est parlé dernièrement, j'avais fait une chronique là-dessus, puis je veux dire, c'est partout. Et ce n'est plus qu'un problème montréalais. Avant, on disait, ah, oh, c'est Montréal, la métropole du Québec qui a ce problème-là. On sait bien, on a tous les mots à Montréal. Mais là, c'est plus ça. Écoute, les pires situations de logement, c'est Gatineau, c'est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord.
Trois-Rivières.
C'est Trois-Rivières. C'est toutes les régions du Québec vivent la même chose. Pénurie criante, manque criant de logement à tous les niveaux. Et là, la classe moyenne essaie d'aller faire son épicerie, se rend compte que ça coûte, ça a été documenté, à peu près 1 200 $ de plus qu'il faudra payer cette année. Donc les gens se sont dans cet état-là, un peu fébrile, à se dire, OK, c'est quoi les moyens qui me restent? Et moi, c'est ça qui m'intéressait, d'aller rencontrer des gens qui avaient fait certaines réflexions puis qui avaient décidé de prendre des moyens ou en tout cas de changer certaines façons de faire. J'ai quelques extraits pour toi parce que, tu sais, on parle beaucoup de la consommation. Quand tu parles de classe moyenne, tu dis, ben oui, mais c'est la classe qui consomme puis elle vit à crédit, elle consomme trop. On nous accuse beaucoup de surconsommer. En même temps, tu sais, t'as envie... Puis c'est vrai, c'est pas faux. T'sais. Et c'est vrai qu'on achète beaucoup à crédit. Des fois, c'est pour se faire plaisir, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens qui achètent l'épicerie à crédit, qui sont pas capables de la payer à la fin du mois.
En fait, il y en a eu beaucoup plus dans la dernière année.
Mais tellement. Et c'est vrai que j'ai une famille qui est formidable, la famille Lacombe, qui ont déménagé en Mauricie avec leur... ils sont 9, ils ont 7 enfants, ils ont un bébé l'année dernière. Ouais, eux, là, leur modèle...
Eux,
écoute, c'est un shift incroyable. Mais sais-tu comment ils arrivent? Eux, leur but, leur mission, c'est l'autonomie alimentaire. Fait que là, mais ils y connaissaient rien ou à peu près. Là. Ils n'avaient jamais planté un légume. Là, ils ont acheté une fermette qui est une ancienne pépinière dans le bout de Warwick. Et là, ils ont décidé de s'y mettre les deux mains dans la terre. Et tout le monde participe. C'est la coopération dans la famille. C'est vraiment le modèle familial coopératif. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très inspirant. Évidemment, on n'a pas tous 7 enfants. Moi, m'y être pris plus jeune avec le bon gars, j'en aurais peut-être 4 ou 5 ou 6. Mais ça n'a pas été ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais je les regarde faire, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est fabuleux. Écoute, quand je suis allée les voir, ils font leur pain. Ils ont fait leur bouillon de légumes. Eux, là, moi, ça va dans mon compost. Je me trouve bonne, tu sais, de composter. Mais eux, ils ont quasiment pas de compost. D'abord, premièrement, ils prennent les restants, donnent ça aux poules. Puis les restants des restants,
donc,
ils
donnent ça aux poules. Donc, les poules donnent des
œufs. Oui, les poules donnent des œufs. Écoute, ils ont 2 douzaines tous les jours. Ils ont des douzaines de cas. Et c'est de toute beauté, ça. Ils ont vraiment la basse-cour. Ils vont avoir un cochon. Ils veulent, tu sais, vraiment, là, ils sont en train de s'équiper puis d'apprendre le métier de propriétaire fermier. Et les enfants aussi, les enfants, ils font le train. Bon, tu sais, moi, j'ai fait le train quand j'étais plus jeune. Ça a été une de mes premières jobs d'été dans une porcherie que mon père avait. Je te dis que ça forme le caractère. Fait que les enfants, là, même les petits, la petite ramasse les œufs et tout. Mais ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que eux, avant, c'était le modèle de la famille classe moyenne qui roulait, tu comprends, qui consommait. Et il l'explique très bien, Jean-François Lacombe. Voici un extrait.
Je regarde les jeunes de ma génération, j'ai 41 ans, puis la plupart des gens avec qui j'ai été au secondaire ont des belles maisons récentes, ont des belles voitures neuves dans leur entrée, ont un bateau ou un 4 roues ou un skidoo ou une moto. C'est bien le fun, c'est des BBL, mais ça crée des dépenses puis ça fait que tu restes pris dans la roue. Là. Ouais. Ben, c'est un coup que tu es sorti de la roue, tu te rends compte un petit peu de l'absurdité de la roue. Tu sais, tout le monde qui klaxonne, qui sont pressés, qui font pas leur stop, qui collent dans le derrière, sont comme pressés d'arriver en retard. Moi, aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ce changement de vie-là avant?
Avant. Ouais. Et donc, ça fait un an, ils sont là-dedans, puis... là, ils sont tellement contents d'avoir fait ce changement de vie parce que...
Il est dans une autre roue, par exemple. Ben, faut qu'il fasse ses semis, ses affaires.
Raison, puis
quand il y a une journée de beau temps, mais là, faut qu'il récolte. Parce qu'il annonce 3 jours de pluie, puis il est dans une autre roue.
Oui, mais ça, brûle-y pas le punch, il s'est pas rendu compte de tout ça encore. mais c'est du travail. Mais, tu sais, il travaillait fort. Avant, il y avait 2 entreprises en électronique. Il a fait un burn-out, il a fait un zona. Il était plus capable, puis il se rendait compte qu'il y avait une famille et il voyait pas sa famille, il voyait pas sa femme. Là, aujourd'hui, tout le monde est plus heureux. Puis en même temps, il voit malgré tout, puis il fait du télétravail de leur maison. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie, ce modèle-là, il est plus possible. Parce qu'avant... Imagine faire du travail de chez vous, de ta ferme. On t'aurait dit, ben non, il faut que tu ailles au bureau. Là, tu ne pourras pas fonctionner demain. Mais là, il y a 2 emplois. Il est gestionnaire de communauté pour 2 entreprises. Ça marche, ses affaires. Mais en même temps, ça ne l'y empêche pas de regarder la situation. Et voilà ce qu'il en pense.
C'est parce que quand je regarde mes enfants qui grandissent, leur estomac qui suit la courbe, puis l'inflation qui suit la même mauduse de courbe, je me dis, si je fais pas pousser assez de tomates, tu vas être dans le chenou tantôt. Là. Fait que c'est ça.
Fait qu'on a peur, Eddie. Fait que tu vois, mais c'est intéressant, mais c'est pas, par exemple, cette famille, il y a plusieurs modèles dans le documentaire Les moyens de la classe moyenne. Ça, c'est un modèle. Évidemment, ça peut pas convenir à tout le monde. Toi, c'est le modèle un peu agricole, tu sais, que t'as connu avec ta famille, qu'on a perdu. Moi, ça m'avait frappé parce qu'à un moment donné, j'avais interviewé des enfants dans une école, je leur avais demandé, nommez-moi des sortes d'oiseaux. Puis ils m'avaient nommé les oiseaux de McDo. T'sais, c'est pas une espèce, ça, les oiseaux de McDo. Ça, c'est des mouettes qui vont ramasser les frites que le monde mange pas.
Okay, c'est ça qu'ils appellent les oiseaux de McDo, c'est les goélands oiseaux... qui mangent dans la poubelle.
Ouais, écoute.
C'était, pis... C'est pas les poules, les oies, les canards, là.
Non, c'était pas ça du tout. T'sais, c'est... Fait que là, tu dis, okay, est-ce que les enfants savent comment poussent des carottes, des patates? Comment ça se... Est-ce que tu sais qu'une poule pondeuse fait 1 œuf par jour? Est-ce que tu sais comment
mais
ça marche?
Les œufs.
Tout ça.
Les œufs, personne ne sait comment ça marche.
Non.
Moi, au Québec, de mon avis, t'es à 95% qui savent pas comment faire pousser une patate.
Sans doute. Sans doute. Mais avoue, Mario, que c'est la base. Moi, je dis, c'est la base. Moi, écoute, mon père était ingénieur agronome vétérinaire. Moi, on est arrivé, tu sais, je l'ai raconté quelques fois, on est arrivé de France ici. Tu sais, quelle est la première chose que mes parents ont fait? Ils ont loué une terre chez un agriculteur à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire. Ils ont loué une terre. Puis, écoute, il y avait des espèces de vieux... de vieux wagons de train, il y avait... Moi, je jouais là-dedans, tu comprends, j'étais petite, puis en même temps, j'étais de corvée de ramassage de haricots l'été, de patates, de tomates, de tout ça. Ça
c'était du maraîcher.
C'était avec du maraîcher à la maréchale, m'a dit. Puis on vendait pas ça. Non, c'était parce que mes parents sont des terriens. Écoute, ils viennent de la Bourgogne, les deux mains dedans. Alors,
OK, c'était pour votre consommation personnelle?
C'était pour notre consommation personnelle, parce qu'en France, on avait toujours eu des jardins. Les Européens, les Italiens qui vivent ici, là, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils habitent à la rue Saint-Denis ou Christophe Colomb. Ils ont un petit bout de terre entre le pavé uni puis le trottoir. Ils vont mettre trois plants de tomates. Ils ont un balcon puis ils se mettent des plants de tomates ou des plants de piment, de poivron, de la salade, parce que ça fait partie de leur identité. D'humain terrien.
Mais ça progresse quand même.
Et ça s'en vient, t'as raison. Ça s'en vient, mais là, il faut développer les méthodes, tu comprends?
Ouais,
parce que des fois, ta tomate, elle te coûte plus cher que celle que t'achèterais au magasin.
Ouais, ça, c'est ça.
Mais pourquoi, je te parle aussi de cet exemple-là de mes parents, c'est que je me rends compte, à l'époque, ça me faisait suer, t'as pas idée, là. Puis je me dis, et j'aurais dû, aujourd'hui, je regrette de pas avoir plus écouté les leçons d'agronomie et d'agriculture de mon père, parce qu'aujourd'hui, je m'en servirais, tu comprends? Donc, il faut qu'on apprenne sur le tas, mais on n'aura pas le choix. L'autonomie alimentaire, moi, j'y crois tellement, là. Écoute, on l'a vu avec la pandémie. La pandémie nous a montré à quel point nos chaînes alimentaires étaient dépendantes de l'approvisionnement de l'extérieur. Et là, on s'est ramassé, on s'est dit, comment on va faire? Et là, il y a des modèles à développer, tu sais, la culture en serre. On vient de commencer à s'y mettre, alors que ça fait des années, puis c'est pas parce que l'électricité coûte cher ici. Tu sais, on est capable d'avoir ça, les abris tempo, tu mets de la chaleur là-dedans, fais pousser des tomates à la verticale.
C'est plus
ou de la
compliqué
laitue.
Que ça un peu quand même.
Je vulgarise pour que les gens comprennent le concept, mais tu comprends, pourquoi on l'a pas fait avant? On dirait, tu sais, dans le documentaire, on est né. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une espèce de réveil, tu sais, que les gens se rendent compte, si ça peut contribuer à ce que les gens disent, OK, on en est rendu là, avec les commentaires des experts dans le docu et tout, qui disent, c'est maintenant, là. En fait, c'était hier, mais comme on n'a rien fait, qu'on prétend, on a la tête dans le sang, puis on regarde ce qui se passe ailleurs, mais on fait comme, nous, au Québec, on est bien chanceux, ça nous concerne pas. Tu sais, les crises en France ou en Europe, tu sais, que ça soit la France, la Grèce, l'Angleterre ou aux États-Unis, ça nous concerne. On est les prochains. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux pas de crise violente puis de 1 million de personnes qui manifestent bruyamment, pas contents dans la rue comme à Paris, parce qu'ils sont pas d'accord qu'on ait reporté 2 ans à l'âge de la retraite.
Juste te dire que s'ils font ça, ils ont toujours raison, parce que là, présentement, les carrés rouges reçoivent de l'argent, des excuses tous les jours. 3 mois de manifestation, puis ils ont tout cassé, puis c'était juste des victimes. Le reste de la société était coupable, puis eux étaient des pauvres victimes.
Mais c'est malheureux. c'est bien malheureux. Mais il y a eu un début de quelque chose, là, remarque. T'sais. Moi, je trouve qu'il y a eu un début de quelque chose, mais... Bon, je pense qu'on l'a beaucoup dit, tous les enfants, les pseudo-enfants gâtés là, qui se plaignaient et tout, mais je pense que la jeunesse a quand même dit quelque chose, puis je pense que les enfants de la classe moyenne devraient s'inquiéter. Puis nous, génération X, et même... tout le monde, on devrait s'inquiéter pour nos enfants, parce que c'est quoi les modèles qu'on va leur léguer? Il faut absolument qu'il y ait un brassage d'idées, puis qu'on reparte un autre projet et qu'on change les modèles, parce qu'ils ont fait leur temps. Tu sais, des fois, ton char, il marche plus, tu changes d'auto.
Fait que le début d'une réflexion de société, parfois, c'est un documentaire.
Ben oui, on est là pour ça. Je trouve que le documentaire est tellement fabuleux pour faire réfléchir.
Tu restes à faire la promo. Quelle heure? Quand?
Alors,
où?
Télé-Québec, ce soir, 20h. Après ça, il y a une petite discussion dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Puis les gens peuvent aller sur le site de Télé-Québec voir l'émission. C'est bien sûr en rediffusion. L'horaire est sur le site de Télé-Québec. Et vous pouvez suivre, bien sûr, sur iProd Media, le site d'iProd Media également. Il y a de l'info là-dessus, ma boîte de prod. Fait que merci d'en parler, puis j'espère que les gens vont le regarder avec leurs enfants.
Oh, en famille?
Ben oui, tu te regardes ça en famille, puis tu commences à donner des notions de finances personnelles à tes enfants. T'sais. La notion d'économie. T'sais. Pourquoi tu t'achèterais quelque chose tout de suite? Peut-être que tu peux repousser ton besoin. Moi, je dis ça souvent. Repousser son besoin, c'est très bon. C'est très économique.
Enfants... Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça que les enfants veulent entendre en 2023.
Non, mais tu sais quoi? Je ferai une autre chronique là-dessus sur le travail des enfants. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai des opinions là-dessus, mais je pense que ça va peut-être être intéressant de voir. C'est les enfants. Moi, quand les enfants ont commencé à travailler, là, c'est là qu'ils ont comme allumé que OK, voilà combien ça coûte. Ils sont devenus très, très bons ensuite
tout à, coup,
à calculer.
Effectivement. Ouais. Hey, merci Isabelle, bonne chance ce soir.
Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
La dernière année n'a pas été facile dans le secteur technologique. Remarquez, vous allez me dire, les années d'avant avaient été complètement folles. Les actions montaient des compagnies, des Apple, Microsoft, Netflix, nommez-les toutes, Google, c'était la folie, Amazon encore plus. Mais là, c'est le ralentissement, c'est les mises à pied par dizaines de milliers, comme un peu un choc là, dans le secteur technologique. Les actions en bourse ont pris des débarques, là, dépendamment de laquelle, 25, 40, 50, 60 au cours de la dernière année. On a quand même une grande entreprise de technologie, peut-être méconnue, qui a son siège social à Montréal et qui semble s'en sortir pas mal du tout. L'entreprise en question s'appelle WatchMojo, une société web qui n'est pas, pas en bourse, qui est à capitaux privés. Avec nous pour en parler, le fondateur, président de WatchMojo, Ashkan Karbasfrouchan. Bonjour.
Bonjour.
Bon, parlez-nous d'abord de votre entreprise. C'est connu, je pense, des peut-être des plus jeunes, des gens qui regardent beaucoup de vidéos en ligne.
Oui, en effet, on est surtout une compagnie de médias. On produit du contenu. C'est clair qu'on déploie beaucoup de technologies pour développer, distribuer le contenu, mais on est surtout une compagnie de médias.
OK.
Puis c'est ça. Puis la plupart des gens nous retrouvent sur Snapchat, sur YouTube, TikTok, Facebook, etc.
Et vous faites beaucoup de contenu, par exemple, des top 10 de films, de scènes, des top 10 de toutes sortes de choses. Donc, des contenus qui sont comme intéressants à regarder, que les gens vont être curieux d'aller voir.
En effet, exactement. Surtout sur le monde du divertissement, des films, la télévision, la musique, les jeux vidéo.
Avez-vous eu à faire des licenciements dans la dernière année?
Non, mais écoutez, je pense que quand vous décrivez la situation des Google, de Facebook, etc. C'est quand même des compagnies qui se retrouvaient à une extrême. Puis comme vous l'avez dit, c'est quand même, l'enjeu, c'était de grandir à n'importe quel coût. Puis c'était également des gestes offensifs d'accroître leur part de marché, leur revenu, mais également défensifs. Alors si tu es Mark Zuckerberg chez Facebook, tu vas peut-être embaucher quelqu'un afin qu'ils ne vont pas travailler chez Google. Alors, c'est pas juste offensif, mais c'est également défensif pour prévenir ses concurrents d'embaucher les meilleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive après une décennie, c'est que tu as beaucoup de personnes qui font pas grand-chose. Alors, je dirais que pendant les 2010, quand les taux d'intérêt étaient plus ou moins zéro, il n'y a pas vraiment un coût à cet égard. Mais dans la dernière année, je pense que, disons, tout l'univers a changé. Puis maintenant, c'est pas nécessairement... on valorise pas la croissance à n'importe quel coût, alors ça prend un peu plus de discipline. Puis je pense que ce que vous voyez, c'est un peu une réalisation que les compagnies de technologie, ils vont pas être valorisés différemment. Alors on va mettre l'emphase sur la rentabilité. Alors pour eux, c'est quand même un autre univers. Même dans notre secteur de médias, on voyait des compagnies comme Vice, originalement de Montréal, comme BuzzFeed, qui également ils avaient comme un objectif de grandir. Alors, ils ont embauché beaucoup trop de personnes. Et c'est des compagnies de médias qui n'ont pas vraiment besoin de milliers d'employés. Mais tout à coup, ils se sont retrouvés avec des milliers d'employés. Et eux également ont été forcés à faire des ajustements à leur nombre d'employés.
Ajustement étant mis à pied par la force des choses.
Exactement. Nous, dès le début... Donc, mon épouse et moi, on a démarré la compagnie en 2006. On a embauché des jeunes afin de développer un peu l'équipe de gestion. Ça a toujours été un peu plus un esprit familial. Maintenant, c'est clair qu'après 15, 16, 17 ans, on a plusieurs employés qui sont avec nous pour 10, 15, 16 ans. C'est un peu particulier.
Vous avez combien d'employés en tout?
On a environ une cinquantaine à temps plein, mais on a beaucoup de pigistes aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'on produit beaucoup de contenu, surtout anglais, mais également français, espagnol, etc. Alors, en tout, on est peut-être 200 personnes, incluant les pigistes globales, mais on est environ 50 personnes, la plupart à Montréal, mais partout au Canada. Alors, pour nous, on a toujours... Disons, moi, j'étais toujours très agressif d'embaucher et d'investir pour grandir, mais j'ai jamais vraiment voulu me retrouver à faire des congédiements. Alors, on a toujours été un peu plus discipliné à cet égard. Et Même maintenant, disons, c'est l'année passée, à la fin de l'année, on a donné des primes, des bonus, des augmentations de salaire. Puis j'ai écrit quelque chose sur LinkedIn, pas vraiment du tout pour se vanter, mais juste dire que je pense qu'il y a quand même de la valeur pour plus qu'une décennie. Les gens parfois me critiquaient pour être un peu plus conservateur, mais on a toujours voulu éviter les congédiements. Alors moi, je gérais l'entreprise de telle manière. Puis maintenant, c'est un peu bizarre de voir un peu de changement de philosophie, de gestion. Et donc, c'est normal comme ça. C'est normal de vouloir être rentable.
Ouais. Mais vous avez parlé de la décennie dans les technologies. Ça a été fou à tout point de vue. C'est-à-dire qu'autant les entreprises, vous avez dit, voulaient vivre une croissance extrêmement agressive à des acquisitions. En même temps, ces entreprises-là étaient financées, leurs actions gagnaient tellement de valeur que ça leur donnait du capital, ça leur donnait une capitalisation boursière. Leurs revenus ont explosé, les populations étaient au rendez-vous. S'ils avaient besoin d'emprunter, les taux d'intérêt étaient au plancher, étaient presque à zéro. C'était une décennie complètement folle. Donc, pour vous, ce qu'on vit depuis un an, c'est juste un rajustement, un retour, incluant les congédiements, c'est juste un retour à la normale, à des nombres d'employés qui sont un peu plus proportionnés à leurs véritables besoins?
Oui, en effet, mais je dirais que la différence, comme vous l'avez dit au début, c'est que c'est pas comme une compagnie qui est sur la bourse. C'est clair que tu vas avoir une philosophie de gestion un peu différente. Parce que tu dois, à la fin du mois, tu dois gérer la compagnie pour que tu sois rentable et pour que tu n'aies pas à avoir de faire des décisions un peu difficiles à congédier des gens. Mais l'autre chose, je dirais que c'est pas juste la décennie. Je dirais que c'est le siècle du 21e siècle où c'est vraiment, on a mis l'emphase sur Wild Wild West. C'est quelque chose de nouveau. Alors, il y avait juste une emphase sur la croissance. C'est surtout ça. Mais je dirais que ce qui s'est passé avec l'inflation, la guerre en Russie, Ukraine et juste le changement, donc maintenant, je dirais qu'on est rendu un peu plus dans une ère qui est un peu plus historiquement normale, mais il y a une expression qui dit que, si vous permettez, je vais le dire en anglais, que greed is permanent, fear is temporary. Alors moi, je pense qu'à la fin de cette année, on va voir un peu un retour à la normale qui va être encore une fois, les taux d'intérêt vont baisser un peu. Je pense pas qu'on va revoir les taux à 0%, mais les taux vont probablement baisser un peu. Et on va voir encore une fois que go, go, go. Puis je dirais une chose que les Google, les Meta, toutes ces compagnies qui font des congédiements, c'est clair que ils vont devenir encore beaucoup plus forts, ils vont devenir beaucoup plus féroces. Puis c'est vraiment, ils font des ajustements qui vont les rendre encore plus powerful dans les années 2020-2030.
Mais vous pourriez lever du capital, accélérer peut-être votre croissance en allant sur le marché boursier, là, en rendant votre compagnie publique, en levant des capitaux sur le marché boursier. Ça vous passe pas par la tête?
Oui, mais mon background, c'est la finance. Alors, c'est pas quelque chose que j'ignore.
Okay, c'est pas exclu.
On a des conversations. Ouais, c'est pas exclu, mais je dirais que, disons, c'est a means to an end. Alors, la croissance, on n'a pas besoin nécessairement du capital. On a beaucoup de produits, on a beaucoup de stratégies qu'on va démarrer depuis quelques mois, qui vont quand même changer l'envergure de l'entreprise. Mais c'est clair que c'est des conversations qu'on a un peu tout le temps. Puis quand le temps est, je dirais, correct, quand je pense que l'organisation est prête, c'est quelque chose qu'on va visiter. Mais c'est pas comme si on est pour ou contre, mais c'est un détail. C'est pour nous, la stratégie, c'est pas aller juste avoir du capital. C'est des produits, c'est la stratégie, c'est les employés, c'est les usagers, etc.
Mmh. Là, on parle de mise à pied, mais il y a un problème présentement au Canada, entre autres dans le secteur des technologies, c'est de garder sa main-d'œuvre. Est-ce que vous avez problème avec ça? Est-ce que vous dites que vous avez des gens quand même avec qui vous travaillez depuis très longtemps? Vous m'avez dit ça plus tôt, mais est-ce que vous avez un problème à garder votre main-d'œuvre, à garder votre monde ces années-ci?
Non, pour la même raison. Je dirais que dès le début, j'ai toujours traité un peu. J'aime pas l'idée de dire qu'une compagnie, c'est une famille. Quand même, en 2006, c'est un monde différent. On parlait beaucoup plus de l'école de pensée de Jack Welch, qui était shareholders only, les actionnaires. Moi, en 2006, quand je parlais un peu de comme stakeholder mindset, de mettre les gens avant les profits, c'était un peu comme banal. C'était des gens pensaient que j'étais un voyou, mais comme maintenant, c'est rendu de plus en plus normal de dire que, hey, c'est les employés, c'est les clients. Mais comme il y a 15-16 ans, quand je parlais comme ça, les personnes pensaient que j'étais comme un socialiste, mais j'étais comme un capitaliste éthical, je dirais. Mais tout pour dire que on a toujours, même quand on n'était pas rentable, comme mon épouse et moi, il y a 20 ans, on a hypothéqué notre maison pour garder des employés au lieu de les licencier. Alors, c'est toujours une philosophie très différente. Puis on a toujours, même quand on n'était pas rentable, on donnait des petits bonus, on donnait des augmentations de salaire, même quand l'inflation était à 2%, des salaires augmentés à 6-7%. Même l'année passée, disons, on donnait des augmentations de salaire de 5-25%. Des bonus.
Ah,
quand,
ouais.
Tout le monde, ouais, quand tout le monde dans notre industrie disait tout bad, on congédie les gens. Alors pour moi, disons, j'ai toujours eu une philosophie un peu différente. Alors on gardait les gens. Maintenant, c'est clair qu'il y avait une période, je ne veux pas vous le cacher, je dirais en 2017-2018, où on a quand même triplé l'organisation de 25 à 75%, puis c'était un peu intense. Alors on a eu comme peut-être une dizaine de personnes dans cette période un peu plus intense qui ont quitté. Mais je veux dire, à part pour cette période limitée, même on voit des employés de boomerang, des gens qui ont commencé avec nous après quelques années, qui étaient contents, ils ont dit on va aller ailleurs. Puis maintenant, c'est drôle, on a peut-être une dizaine de personnes qui sont retournées. Ils me disaient, tu sais, je suis allé ailleurs, j'ai vu que tu sais, the grass is not greener on the other side, y a-t-il un rôle pour moi? Puis je dis toujours que si on blow up the bridge, si tu es diplomate, tu quittes... Donc, correctement, disons, la porte va toujours être ouverte pour toi. Alors, nous, on n'a pas vraiment eu ce problème. Puis, c'est étrange parce que, oui, c'est difficile, on dit toujours les jeunes, mais je veux dire, les jeunes, avec un peu de respect, avec un peu d'autonomie, avec un peu de bon sens, ils vont rester avec une organisation. Alors, non, nous, on n'a pas vraiment de problème pour embaucher, on n'a pas vraiment un problème pour retenir. Mais c'est clair que ça prend une philosophie. Dès le début, j'ai donné comme le pouvoir à mon équipe de gestion de pouvoir traiter les gens corrects. Puis même, je dirais que parfois, c'est un peu trop. Moi, j'ai toujours comme protégé mon équipe de gestion. Puis parfois, je disais à mon équipe que, écoutez, vous êtes un peu trop gentil. C'est différent pour un fondateur. C'est comme vous êtes mes invités. Je vais vous protéger. Mais vous êtes des gestionnaires, même si vous êtes actionnaires, je dis vous êtes des gestionnaires, il faut être un peu plus sévère parfois, un peu comme un coach. Alors, ça prend un peu comme l'équilibre, vraiment le mot c'est équilibre. Alors non, nous on n'a pas de problème, mais je comprends pourquoi les jours-ci, avec les jeunes, etc., c'est un peu plus compliqué d'attirer le talent puis de les retenir. Puis surtout dans un contexte maintenant après la pandémie où les personnes ne veulent même pas retourner dans un bureau. Donc, c'est un monde assez particulier.
Askan Karbash-Prochan, merci de nous avoir parlé. Le fondateur et président de Watch Mojo.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, David Johnson est nommé rapporteur spécial indépendant par Justin Trudeau pour se pencher sur l'ingérence étrangère dans les élections. Le major général Danny Fortin poursuit Justin Trudeau et différents membres du ministère de la Défense et de la Santé après avoir été acquitté de son procès pour agression sexuelle. André Boisclair, lui, obtient sa libération conditionnelle justement après une condamnation de ce même acabit. Et en Grèce, grève massive des journalistes en guise de protestation après un accident de train.
Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors il pleut des nouvelles de dernière dernière heure.
On a un rapporteur spécial.
On a un rapporteur spécial, puis pour nos auditeurs qui se disent, qu'est-ce que c'est ça un rapporteur spécial?
Et c'est la promesse de M. Trudeau.
La promesse de Justin Trudeau face à la pression des oppositions qui lui demandaient de lancer une enquête complète publique.
Parce que les gens en général vont dormir mieux ce soir, parce que les gens attendaient, ça va être qui le rapporteur spécial, ça va être qui,
Ben peut-être, hein, les gens qui sont fébriles face à cette décision-là.
Pas, pose la question, mais peut-être pas non plus.
Mais c'est finalement l'ancien gouverneur général David Johnston qui va avoir la tâche de déterminer, donc, si oui ou non, il va y avoir enquête publique indépendante sur l'ingérence étrangère dans les élections. Ça peut sembler mélangeant, mais il y a un poste pour déterminer s'il doit y avoir une enquête sur les ingérences. Donc,
ouais, il doit faire les recommandations sur la meilleure manière de donner suite à tout ça.
Oui, et là, du côté là, du communiqué du gouvernement qui est tombé en même temps que cette nouvelle, on dit que le gouvernement canadien va respecter ses recommandations publiques qui pourraient comprendre donc une enquête officielle, une révision judiciaire ou autre processus d'examen indépendant. Ils disent qu'ils vont les mettre en œuvre, peu importe quelle décision sera prise. On dit aussi qu'il y a des consultations sur cette nomination-là précise qui ont été menées auprès de tous les partis de la Chambre des communes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu entente entre tous les partis pour nommer M. Johnston?
On parle de consultations.
Oui, consultation.
Et non pas accord.
Il risque d'y avoir quand même.
Par contre, les conservateurs sont un peu mal pris avec ça parce que M. Johnston, c'est celui qui avait été nommé gouverneur général par les conservateurs.
Oui.
C'est la nomination des conservateurs.
Ça avait été une nomination des libéraux de Justin Trudeau même. On aurait pu douter un peu plus.
C'est la nomination de Stephen Harper. C'est le choix de Stephen Harper pour être gouverneur général. Donc, on peut difficilement dire que c'est quelqu'un qui a pas d'allure.
Oui. Et là, ça vient de tout juste de tomber. Donc, il faudra voir quelles sont les réactions des différentes oppositions face à cette nomination-là. Est-ce qu'il y aura accord sur le concept? Déjà qu'on réclamait là, de partout qu'il y ait directement une enquête indépendante sans qu'il y ait justement ce rôle de rapporteur spécial de nommer. Enfin bon, Justin Trudeau qui essaie de couper la poire.
Dans le communiqué du gouvernement, on dit dans une phrase qui m'apparaît quand même assez claire, assez limpide, qu'on va suivre les recommandations.
Oui.
Le gouvernement s'engage à aller dans le sens... Donc
ils vont les mettre en œuvre, c'est ce qu'ils disent.
C'est ça. Donc si M. Johnston disait... ça prend une commission d'enquête sur l'ingérence, on le ferait.
Oui, donc il faudra voir c'est surtout l'autre question, Mario. Combien de temps ça va prendre avant de rendre un rapport de rapporteur spécial? Ça, c'est une autre question.
Ouais.
L'autre nouvelle de dernière heure, c'est une poursuite intentée par le major général Danny Fortin, lui qui avait été acquitté en décembre 2022 pour son procès d'agression sexuelle. Et là, qui entame une poursuite au civil de 6 millions de dollars, poursuit non seulement le procureur général, mais aussi Justin Trudeau lui-même, les ministres de la Défense, ministre de la Santé, le chef d'état-major Wayne Eyre et plusieurs fonctionnaires. Donc, une très grosse liste pour cette poursuite civile. Lui, on se souviendra, le major Danny Fortin qui avait été nommé responsable la distribution de vaccins contre la COVID-19 jusqu'en mai 2021. Ensuite, avait dû là, se retirer de son poste le temps que l'enquête se fasse.
Il n'avait pas eu vraiment le choix. Là. Quand les allégations sont tombées, il n'avait comme pas eu trop le choix.
Et là, lui dénonce la gestion de son dossier, dénonce aussi la tenue de propos diffamatoires à son endroit. C'est ce qu'il juge. Donc, on a un peu de détails pour l'instant, mais ça risque de sortir là, dans les prochaines heures. Donc, grosse poursuite. Est-ce que c'est étrange pour toi qu'il cible Justin Trudeau précisément?
Oui et non. C'est-à-dire que tout le monde est mal pris là-dedans, parce que, tu sais, mettons, des allégations d'agression sexuelle, c'est devenu tellement grave, tellement sensible, que la pratique et la norme partout, c'est on pogne l'individu, de la minute qu'il y a une allégation, on n'a pas le temps de vérifier, de faire l'enquête, tout ça, on pogne l'individu, puis on le jette en dessous de l'autobus.
Oui.
On le garoche.
Là, il y a quand même eu procès, par contre.
Ouais, ben là, c'est ça, mais là, il a été acquitté au procès. Donc, quand il a fallu de la vraie règle de preuve, au sens juridique du terme, il est acquitté. Bon. Maintenant, là, lui, il dit, ben là, moi, quand on m'a tassé de mes fonctions, quand on m'a enlevé, j'avais un rôle important, on a détruit ma réputation. C'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est devenu la norme? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens, dans le fond, qui sont accusés, qui sont traités comme des condamnés? Bon, remarque qu'au niveau de son emploi, on est obligé de le rembaucher après. Je pense que l'armée n'a pas le choix de le reprendre.
Ouais, c'est pour ça qu'on dit pas ex-major général.
C'est ça. Puis on va le reprendre à la même rémunération qu'il y avait. Mais est-ce qu'on va lui donner des rôles aussi publics? Est-ce que sa réputation, est-ce que sa capacité d'obtenir des rôles de premier plan a été atteinte? On peut bien penser que oui. En fait, c'est une cause intéressante. Puis là, ben lui, je pense que son avocat, il a dit, garde, là, ouais, il embarque tout le monde. Là. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la décision, le premier ministre Trudeau, envoie, mets-moi-les toutes dans la poursuite.
Oui, puis c'est certain que ça fait en sorte que c'est plus médiatisé aussi quand le premier ministre du pays est visé.
Mais ça pourrait aussi, si c'est une cause au civil, là. Bon, Et là, soit tu te poursuives au civil, soit que tu payes le montant, on te dit que tu m'as causé tel montant de dommages, soit que tu payes le montant. Dès que tu payes pas le montant, ben tu dis, moi je suis prêt à aller à procès. Tu sais, quand moi je suis prêt à aller défendre qu'un individu me poursuit parce que j'ai brisé sa clôture, j'ai pas brisé sa clôture, je suis prêt à aller me défendre. Puis là, ben, à partir du moment où tu vas te défendre, ça veut dire que l'autre partie peut t'interroger. Donc le camp, les avocats de Danny Fortin vont pouvoir asseoir dans le box Justin Trudeau, là, pour l'interroger sur son rôle, sur ce qu'il a fait, etc., etc. L'inverse est vrai aussi, les avocats de M. Trudeau vont pouvoir interroger, mais...
Il va falloir parier que les avocats du gouvernement, quand même, là, seront vouloir... féroces et tenaces dans ce dossier.
Oui. Mais c'est quand même... L'avantage que là, c'est que lui, il n'a comme plus rien à perdre, là.
Ouais.
Alors que Justin Trudeau, puis tout ça, ça va être délicat. Donc, non, c'est vraiment une poursuite qui va être à suivre et à surveiller et qui risque de, un peu de faire époque, là.
Toujours dans les affaires judiciaires, André Boisclair, l'ancien chef du Parti québécois, qui avait été condamné à 2 ans moins 1 jour de prison pour agression sexuelle, a obtenu aujourd'hui sa libération conditionnelle. Ça a été annoncé par la commission, justement, des libérations conditionnelles, après plusieurs refus qu'il avait essuyés, dont le dernier, 14 novembre dernier. On avait refusé de lui accorder sa libération en raison de la gravité des agressions dont lesquelles il était accusé. Et là, ce qu'on dit aujourd'hui dans le communiqué, c'est que c'est toujours des accusations graves qui ont été portées contre lui, mais qu'en 4 mois, il aurait cheminé, sa réflexion aurait évolué. Et
mais
donc,
d'abord, il y a
dû
avoir un électrochoc, parce que généralement, c'est la libération au tiers de la sentence. Donc, lui, il avait une sentence de 2 ans, 24 mois, un tiers, c'est 8 mois. Et il s'est fait refuser. Puis là, ben, je veux dire, je comprends que quelqu'un qui aurait appartenu à des groupes criminalisés, puis qui était un tout croche, puis qui était un récidiviste, tu dis, ouais, la libération au tiers, c'est pas automatique. Mais pour le reste des individus, exemple, pour les gens qui ont une première offense puis qui se comportent bien en prison, la libération au tiers, Alexandre, est très, très, très fréquente. Je vais pas dire automatique, parce que je vais me faire dire par des avocats, non, c'est jamais automatique, mais disons que c'est proche d'être automatique.
Ouais.
Alors c'est vraiment, mais je me souviens, on en avait parlé ici à l'émission, d'ailleurs dans pas un jugement, là, mais une déclaration de la commission des libérations conditionnelles où on était extrêmement sévère à son endroit, qu'on avait dit non, on y refuse, il représente encore un risque.
Ouais, il reconnaissait pas la gravité
de ses
gestes. Non,
mais surtout refusait de participer à des thérapies. Là, son avocat avait plaidé que son calibre intellectuel était si fort qu'il aurait nuit au groupe, là.
Bon. C'est ça, ouais.
Qu'est-ce que tu veux? Faut tout voir, là.
Oui.
Puis là, ben, il s'était fait refuser sa libération conditionnelle, était allé en appel de ça. La commission avait tenu son bout. Et c'est pour ça, pour expliquer aux gens, c'est pour ça que finalement, il va sortir davantage à la moitié de sa peine qu'au tiers.
Et donc, là, va être libéré. On se souviendra, il avait plaidé coupable d'agression sexuelle avec la participation d'une personne, agression sexuelle dans un deuxième cas pour des événements qui remontaient là, en janvier 2014 et novembre 2015. Donc, est libéré là, officiellement là, l'ex-chef du PQ.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Québec va demander aux corps de police de rendre des comptes chaque année et les interpellations aléatoires de leurs agents pourraient être mieux encadrées. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé au Salon Bleu aujourd'hui son projet de loi qui réouvre la loi sur la police. C'est une première étape pour lui pour réformer le système policier. Et donc, ces interpellations aléatoires dont il a été beaucoup question dans les dernières années en raison, entre autres, des allégations de profilage racial qui revenaient dans beaucoup de cas. On parlait d'interdire, il y en avait qui disaient que ce serait une mauvaise idée. Finalement, on parle d'encadrer plutôt que d'interdire ces interpellations aléatoires. Comme ça,
ouais,
on n'ose pas lutter contre le profilage.
Interdire complètement, il avait même été dit par des policiers que ça pourrait empêcher, genre un barrage routier pour l'alcool pendant le temps des fêtes.
Ouais.
Parce que ça, en soi, c'est une interpellation aléatoire. Là. Tu pognes tout le monde sur la route.
Tout le monde passe dans le filet, ça c'est certain.
Et donc, on disait faudrait encadrer. J'entends quand même que on est à la recherche d'un équilibre, parce qu'à un point, on avait à un extrême, bon, on dit, bon, OK, des gens se font arrêter, une personne de couleur, une personne noire est au volant d'une BMW, le type, il est président d'une compagnie ou peu importe, mais il se fait arrêter. Comment ça se fait qu'un noir est au volant d'un char de luxe?
Ouais,
ça
se fait interpeller plusieurs fois de suite dans bien
des
cas.
Des fois, une couple de fois par année. Donc, ça avait pas d'allure. Mais à l'autre extrême, on attendait les policiers à un point, disant, les gangs de rue, on les laisse aller, parce que là, nous autres, si on intervient, puis c'est un gang qui est associé à une communauté culturelle, on va se faire accuser de profilage. Alors, il semble que l'on cherche le juste milieu pour dire, on peut pas mettre les policiers dans un mode non-intervention alors qu'on veut combattre le crime et les crimes, entre autres, la violence armée à Montréal.
Ouais.
mais on veut plus d'interpellation au hasard pour des raisons parfois qui sonnent racistes. Donc, on essaie de mettre l'aiguille au milieu du cadran, là, ni à un extrême, ni à l'autre.
Exact. Et là, ce qu'on veut faire, c'est créer une ligne directrice pour encadrer là, ces interventions aléatoires. Et par la suite, les directeurs de tous les corps de police vont devoir transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport qui fait état des interventions policières qui ont été effectuées. Donc, pour les justifier, on veut des états, des statistiques, tous les renseignements nécessaires sur l'évolution de la criminalité qui, on se comprend bien, pourraient également aider le ministre ou la ministre à ce moment-là de la sécurité publique à dresser des politiques plus établies contre la criminalité, entre autres. Et par la suite, on dit qu'un comité de déontologie policière, là, qui existait déjà, mais qui va devenir le tribunal administratif de déontologie policière. Et là, il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues à la loi sur la police. On les garde, mais maintenant, le tribunal va pouvoir imposer aux policiers diverses mesures si on juge, effectivement, qu'il y a un profilage racial défectué ou autre. Puis on parle de stage de perfectionnement, une évaluation médicale, des programmes d'aide, de la thérapie, des stages d'immersion sociale citoyen. Bref, on donne une pléiade de nouveaux moyens à ce nouveau tribunal qu'on crée pour être capable d'accompagner les policiers en déontologie policière. Donc, plusieurs mesures, évidemment, là, c'est un projet de loi qui est repris, qui avait déjà été amorcé avant de mourir au feuilleton par sa prédécesseure Geneviève Guilbeault, qui est rendue au transport. Donc, on verra là, ce qui se passera avec cette réforme de la police. Disons que c'est une première étape dans une loi qui pourrait être là, vraiment très grosse. Toujours en politique québécoise, ce matin, surprise, nouvelle publicité. On a été habitué à diverses publicités du gouvernement québécois. Il y en a qui ont fait école. Là. Il y en a certaines qui ont tenu l'attention pour les mauvaises raisons. On se souviendra des amis québécois là, qui avaient été...
Ça, c'était pas terrible.
Ça avait fait grincer des dents. Et celle-là fait encore une fois grincer des dents. Mario, on va commencer par l'écouter. Cette publicité publiée ce matin par Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, qui parle du déclin du français. On l'écoute.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Et là, sur le fond, on écrit là justement, le français est en déclin au Québec. Renversons la tendance. C'est ce qui conclut cette annonce qui, toi, t'as pas convaincu, Mario.
Moi, ça m'a pas impressionné beaucoup. D'abord, en fait, il y a deux affaires. D'abord, moi, je pense que sur le déclin du français, c'est deux phénomènes différents. Le fait que les jeunes utilisent beaucoup d'anglicisme, c'est une mode. Je pense pas qu'ils vont changer de langue première. Là. Je suis pas certain que... Fait que dans l'ensemble des choses que je vois comme une menace à l'avenir du français, celle-là arrive pas haut dans la liste. Je dis pas que j'aime ça. Là. Si on me donnait une baguette magique et que les jeunes arrêtent d'utiliser tous ces anglicismes, je le ferais. Mais je vois pas ça comme le premier champ de bataille où se joue l'avenir du français versus l'intégration des nouveaux arrivants, les français dans les milieux de travail, etc., etc. Bon, ça c'est pour une chose. L'autre affaire, c'est que je pense pas que ça va faire le travail. Je pense pas que ça va agir au niveau... Peut-être que je connais mal les jeunes, mais je pense pas que ça va toucher du tout, du tout. T'es plus jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi.
Ben, c'est sûr que c'est des mots que j'entends, moi, l'annonce me fait rire, mais est-ce que ça a une portée qui va être bonne
mais
chez
toi,
les
tu
jeunes?
Mais tu parles pas comme ça, là.
Ben, mais ça va m'arriver d'utiliser des anglicismes, oui, évidemment, moi, à la
tous,
radio,
là.
Mais beaucoup
mais tes
moins...
tes amis parles-tu comme ça?
Pas vraiment, mais je dois t'avouer, on dirait que c'est peut-être une question d'âge. Quand je joue à des jeux vidéo, par exemple, au secondaire, le milieu de secondaire, je peux te dire, tu joues avec des anglophones constamment, avec tes amis français, tu switches du français, tu transitionnes de l'anglais
mais
au français constamment.
C'est francisé, c'est dans le dictionnaire.
Et tu finis par te mélanger les deux langues, puis ça en fait une espèce de franglais bouilli qui te sert à se faire comprendre d'un peu toutes les communautés avec lesquelles tu vas jouer ou interagir sur Internet. Parce que c'est souvent ça de quoi il s'agit. Mais la critique de la présidente du Comité national des jeunes péquistes, Marie-Laurence Dégagné, elle, c'est exactement des propos comme ça qu'elle reprend. Elle dit, elle déplore que ce soit une publicité qui caricature les jeunes alors qu'on veut les intéresser à notre langue. Est-ce que d'entendre ça, ça va plutôt faire rire les jeunes, faire « Ah ah, c'est vrai que je parle un peu comme ça. »
Mais c'est sûr que ça culpabilise. En tout cas, il n'y a pas personne de 50 ans qui parle comme ça.
C'est
vraiment les jeunes. Tu vises les jeunes.
Oui, puis à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir une réflexion, par exemple, sur le système d'éducation qui a appris le français à ces jeunes-là ou qui est censé encadrer le français de ces jeunes-là? Disons que ça ratisse plutôt dans un coin, comme tu le dis, et comme le dit Mme Desgagnés, qui est très, très jeune. Et c'est peut-être ça aussi qui rate la cible, parce que le déclin du français, c'est pas juste les jeunes qui en sont
responsables. Mais enfin, regarde, c'est une publicité, ça lance une discussion, mais moi, si on me pose la question, ça m'a pas impressionné.
Tout savoir en 24 minutes.
Alors que ça se résorbe un peu devant les SAAQ, nouveau dossier qui vient les saisir. On a découvert dans un centre, un éco-centre de Québec en fin de semaine, 270 permis au moins, 270 permis de conduire, qui étaient dans l'éco-centre comme ça et qui traînaient dans des documents. Et là, c'est un gestionnaire de l'endroit qui a fait cette découverte-là, qui a appelé tout de suite les policiers du service de police de la ville de Québec, qui s'en sont saisis. Ensuite, qu'ils ont remis un responsable de la sécurité à la SAAQ. Et là, il va y avoir une enquête qui va être ouverte pour tout ça, parce que pour l'instant, l'histoire ne dit pas si c'est des permis qui sont expirés, qui sont encore valides. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des renseignements personnels
non,
là-dessus,
c'est
Mario.
Ça. C'est ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des pièces d'identité. Ceci dit, c'est une méga gaffe, ça n'a pas d'allure, mais parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui relient ça pour dire « tout va mal à SAAQ ». Non, là, excusez-moi, c'est un hasard, là. Il y a une réforme, une transition informatique qui a foiré la SAAQ. Par ailleurs, et ça, c'est l'administration de la SAAQ, c'est le PDG, c'est le conseil d'administration, c'est tout le monde qui sont interpellés, puis le ministre Éric Cave. À côté de ça, il y a un individu, un employé de la SAAQ quelque part, qui a fait une connerie, qui a mis dans une boîte avec des... Parce qu'il semble que c'est dans la même boîte qu'il y a des plaques en métal, là, des plaques qu'on n'utilisera pas, puis qui s'en allait au recyclage,
oui.
Qui a mis une pile de permis de conduire qui aurait jamais dû être là, mais je veux dire... De là, ça juste pas rapport. C'est deux événements complètement différents. Un qui interpelle toute la direction sur sa gestion d'une grande opération de changement, et un où il y a probablement un individu, un coupable, là, qui avait une procédure à suivre, d'avoir une façon de détruire des permis, exemple, que tu utiliseras pas ou qui ont été imprimés pour rien ou je sais pas quoi. Il doit avoir une procédure pour les détruire. Elle a pas été suivie. Mais je pense pas que pour celle-là, tu puisses blâmer toutes les VP puis le président puis tout ça. Mais un individu a fait une gaffe. Et peut-être, ce qui est drôle, c'est que peut-être que si la SAAQ était pas déjà dans la controverse, là,
on n'en parlerait même pas.
C'est que l'employé au centre de l'éco-centre aurait dit « Hey, ça devrait pas être là, les aurait remis, on les aurait détruits, on les aurait passés dans une déchiqueteuse, puis ça aurait jamais passé aux nouvelles. » Mais c'est que ça, c'est une leçon en communication, c'est qu'une fois que t'es au centre de la controverse, n'importe quoi d'autre qui t'arrive, les gens vont dire « Ah ben non, c'est encore la SAAQ, pas croyable, je vais donner ça aux journalistes. » Non, mais c'est vrai. C'est qu'une fois que t'as la face dans le carreau, puis que t'es la discussion de la semaine ou la discussion du mois, ou la tête de Turc du mois, là, ben tout ce qui t'arrive d'autre, y a rien qui va passer inaperçu. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Nouvelle de dernière heure dans le monde judiciaire, dans le monde policier. On va rejoindre tout de suite Maxime Dolan. Bonjour, Maxime.
Salut, Mario.
Alors, il y aurait eu fusillade, à Laval, oui. Et la victime, la personne visée, est quelqu'un d'assez connu.
Oui, puis j'aurais envie de te dire, c'est quasiment une nouvelle de dernière minute, parce que ça vient vraiment de se produire, là, il y a à peu près 10-15 minutes. C'est un des ténors du crime organisé montréalais, le fils de Vito Rizzuto, donc Leonardo Rizzuto, qui a été atteint par balle en fin d'après-midi sur l'autoroute 440 à Laval. Tu comprendras que j'ai très peu d'informations pour le moment. Par contre, ce qui est confirmé, c'est que il y a quelqu'un, un ou des suspects, qui ont ouvert le feu sur Leonardo Rizzuto, alors qu'il se trouvait vraisemblablement dans une voiture. Ce qu'on me dit, c'est que Leonardo...
Est-ce qu'on sait dans quel quartier de Laval, dans quel coin?
Autour de 440 et autoroute 13. Si je me trompe pas, c'est le quartier Sainte-Dorothée. Là.
Ouais.
Je vous dis ça sous toute réserve. Selon ce qu'on me dit, Leonardo Rizzuto aurait été atteint par balle à une jambe et la personne qui l'accompagnait aurait reçu au moins un projectile au dos. Donc, on peut penser qu'avec un projectile d'arme à feu à la jambe, là, on ne craindrait pas pour sa vie. Par contre, c'est vraiment... c'est majeur là, comme événement.
Oui, parce qu'on se demande toujours en termes de déclencher une guerre des clans. Est-ce qu'il lui était encore, est-ce qu'on le considérait encore aujourd'hui, là, en 2023, comme un chef de clan?
Oui, selon le renseignement policier, Leonardo Rizzuto était vraiment là, parmi les têtes dirigeantes de la mafia présentement. Là, on comprendra que c'est une histoire en évolution. Donc, je suis présentement en route pour me rendre sur place, mais automatiquement, l'enquête dans ce dossier-là va être transférée à la Sûreté du Québec.
Oui, on peut penser ça.
Hein. Organisé. Ouais.
Ouais.
Donc,
ouais.
J'aurai possiblement plus d'informations pour vous un petit peu plus tard ce soir.
Bien, on va surveiller ça. Maxime, merci beaucoup. Au revoir.
Plaisir, Mario.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre Latraverse Dumont.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et voilà, nous avons un rapporteur spécial. Monsieur Trudeau a fait son choix. Est-ce qu'on parle d'un choix habile, en tout cas s'il s'agit de piéger un peu les conservateurs?
Ben, c'est le choix évident. Là, quand tu penses au climat puis au contexte dans lequel M. Trudeau est coincé à nommer un rapporteur spécial, si tu veux mon opinion, il y avait comme deux options. Là. Il y avait un ancien gouverneur général ou un ancien juge en chef de la Cour suprême. Donc, il y avait Beverly McLaughlin que tu pouvais nommer ou David Johnston. Puis c'est habile de nommer David Johnston parce que de un...
Mais des anciens gouverneurs généraux, il y en a d'autres, là.
Moi, tu vas pas aller nommer Adrienne Clarkson, là, tu sais.
Ou Michael Jean.
Michael Jean, qui s'y connaît vraiment, tu sais, qui a une expertise en droit, en nuances. Non, alors, c'est sûr que, si, je veux dire, tu prends pas une astronaute, tu prends pas une artiste, tu prends pas une journaliste. Là, pour aller
mais dans ce cas-ci, David Johnston, c'est que c'est aussi que c'est la nomination de Stephen Harper. Donc, c'est quelqu'un, je dis pas que c'est un conservateur, là, mais je dis c'est quelqu'un qu'un gouvernement conservateur a déjà accrédité comme étant une personne de confiance.
Oui, de un, mais et à deux égards. Je veux dire, c'est vraiment une candidature idéale. Là. Moi, je peux pas imaginer que quelqu'un va le critiquer. Là. Je veux dire, non seulement il a été prof de droit pendant, un éminent professeur de droit pendant plus de 25 ans. Après ça, il a été nommé gouverneur général par M. Harper. Et il est un gouverneur général qui a réussi à ne pas semer de controverse. Hein?
C'est bien.
À pas trop dépenser.
Très bien.
À être comme sous le radar. C'est ce que voulait M. Harper. Puis surtout, avant de le nommer gouverneur général, M. Harper, rappelle-toi l'affaire Karl-Heinz Schreiber et Brian Mulroney, toute cette histoire de paiement en cash qu'aurait reçu Brian Mulroney, du lobbyiste d'Airbus. Tu sais, c'était comme l'espèce de petit fil qui traînait là, dans l'affaire Airbus. Il y avait eu beaucoup de pression sur M. Harper, puis à l'époque, M. Harper avait eu l'idée de demander à David Johnston de dessiner le mandat d'une éventuelle enquête publique. Parce que c'est toujours le problème d'un gouvernement qui nomme une enquête publique, c'est que là, après ça, on lui reproche d'avoir dessiné le mandat pour le satisfaire, que ça fasse son affaire. Rappelle-toi, M. Charest, comment il avait été critiqué pour sa première mouture du mandat de la commission Charbonneau. Donc, à l'époque, M. Harper avait demandé à David Johnston de délimiter et de définir le cadre de l'enquête publique sur l'affaire Karl-Heinz Schreiber-Mulroney. Et c'est ce qui avait donné la commission Oliphant, dont personne ne se rappelle, là, mais qui avait quand même fait son travail dans les règles de l'art. Donc, il a une expertise là-dedans. T'sais. Il s'est déjà penché sur le problème de comment tu fais une enquête publique qui est circonscrite, qui pose les bonnes questions et qui ne va pas comme s'étendre dans un exercice qui dure 50 ans puis qui coûte 500 millions. Là, t'sais. Alors, c'est un très bon choix, mais... Mais c'est que c'est oui. Là qu'on n'en sait pas vraiment plus. Parce que le gouvernement, maintenant, va s'asseoir avec lui, tu comprends, pour définir son mandat avec lui. Alors, est-ce que M. Johnston va faire enquête? Est-ce que M. Johnston va juste consulter les enquêtes qui ont déjà été faites? Est-ce que M. Johnston va travailler avec, par exemple, le comité des parlementaires sur la sécurité publique pour qu'eux lui fassent des recommandations? Alors, on ne sait pas où il s'en va. Comprends-tu? Fait qu'on a comme, on a nommé un pilote, mais on ne sait pas quelle auto il va conduire. Puis on ne sait pas pendant combien de temps non plus parce qu'il n'y a pas d'échéancier. Donc, est-ce que M. Johnson il y a un mois pour accoucher d'une réponse? Une enquête publique, pas d'enquête publique, une enquête judiciaire, ou tu sais, il y a plein de formules là, qui s'offrent à lui. Est-ce qu'on lui donne un mois pour le faire ou il va prendre 6 mois pour le faire? Alors, tout ça fait en sorte qu'on est encore dans la grande opération achetons du temps, mais moi, je vois pas comment ça va calmer et satisfaire l'opposition, surtout dans le contexte du filibuster surréel dont on est témoin en ce moment au comité parlementaire pour forcer la comparution de la chef de cabinet, M. Trudeau.
Oui, parce que ça, on s'en était parlé hier. On s'en était parlé quoi? Il était, les parlementaires étaient à mi-journée ou plus ou moins à mi-journée dans leur journée de travail. Ils ont comme les libéraux ont continué comme ça à tuer le temps, à parler sans relâche jusque tard en soirée pour empêcher le vote, là.
Ben, c'est parce que initialement, le comité ne devait siéger que jusqu'à 6h30, donc 18h30. Donc, quand on s'est parlé, on était supposé arriver proche de la fin. Mais comme ça dure sans fin, puis que c'est quand même une semaine de travail parlementaire, je pense qu'on ne voulait pas forcer une autre rencontre du comité. Donc, le personnel de la Chambre leur a dit qu'ils étaient disponibles à rester jusqu'à 10h30. Pourquoi pas, mon ami? On s'amuse comme des fous! Alors, ils ont continué exactement jusqu'à 22h12. Et là, je peux t'épargner. T'aurais dû voir le niveau de fatigue, de roll-ball, d'écœurement sur les visages de tout le monde. C'est comme, on peut-tu rentrer chez nous, s'il vous plaît? Alors, mais donc, techniquement, il n'y a pas eu de vote. Il y avait encore des noms sur la liste. Parce que dans un débat comme ça, tous les gens qui veulent parler peuvent parler. Donc, est-ce que ça devrait reprendre mardi prochain, techniquement? Mais on est vraiment dans une guerre d'usure là, entre les deux. Là. C'est qui va lâcher la patate le premier. Là. Puis moi, je vois pas l'opposition lâcher le morceau. Là.
Ouais, mais c'est ça va devenir pour les libéraux, là, faire des. On rit de ça, là, mais faire des discours d'une heure et demie, parler. Maintenant, il n'y en a pas qui vont se tanner, qui vont dire regarde, là, on fait tout ça. On se fait suer des journées entières pour protéger la directrice de cabinet du premier ministre. Il va pas y avoir une impatience?
Ben c'est ça, tu sais, il y a des filibusters où les députés sont prêts à le faire parce que c'est sur des questions, tu sais, je vais donner un exemple, un filibuster qui dure pendant 8 jours pour empêcher une loi de retour au travail, dans le cas...
une bataille de principe, là.
Une bataille de principe, le NPD se lève puis fait un filibuster pendant 4 jours, ils vont être prêts à le faire, là, tu sais, il y aurait la même chose à Québec, une loi de retour au travail dans un an et demi, c'est le bordel, Québec solidaire décide de se lever puis de parler pendant 5 jours, ils vont le faire, les députés, puis ils vont y croire, là. Mais là, tu es en train de t'humilier, de te discréditer pour protéger la chef de cabinet du premier ministre dans un scandale où depuis 6 mois, tout ce que le gouvernement a réussi à faire dans sa gestion de crise de cette affaire-là, c'est d'aller à la station d'essence, d'acheter des canisses d'huile puis de les mettre sur le feu. Parce qu'on s'entend, si quand tout cela était sorti, a commencé à sortir en novembre prochain, si la première réaction de M. Trudeau, ça n'avait pas été de dire « Non, non, il n'y a rien à voir ici! » Sa deuxième réaction, ça n'avait pas été de dire « Tous ceux qui critiquent jouent le jeu de Donald Trump. » Puis si son autre réaction après, ça n'avait pas été de traiter de raciste tous les gens qui posent des questions, bien là, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais c'est dans la chronique « Gestion de crise en politique, là, celle-là, elle va passer à l'histoire. Elle est en train de battre SNC-Lavalin. Là,
ouais. Emmanuel, est-ce que tu as aimé cette nouvelle publicité du gouvernement sur la langue française où on se moque un peu là, avec une voix officielle, mais on se moque des jeunes là, qui introduisent des mots anglais partout dans leurs phrases?
OK, mais parce que hier, j'ai assumé mon côté geek, j'en ai un autre, toi qui es à la génie en herbe, qui est super geek aussi. Pourquoi ils ont choisi le faucon pèlerin?
Ben, le faucon pèlerin était menacé de disparition il y a longtemps, mais là, ne l'est plus depuis une couple d'années, depuis qu'on a pris les mesures.
Justement, donc le faucon pèlerin est comme la langue française. Il était menacé de disparition, on s'en est occupé et il va mieux.
Oui, ils m'ont expliqué ça tantôt, mais je veux dire, c'est après moi. Mais... c'est quelque chose qu'il faut qu'on t'explique, là.
Moi, je l'ai aimé, cette pub.
Ah oui? Bon.
Je l'ai trouvé drôle.
J'ai trouvé ça nul.
Puis j'ai trouvé que ça nous fait réfléchir. Moi, c'est un de mes dadas, tu le sais, dans ce débat sur la langue française. On peut C'est vrai qu'il faut s'occuper de se faire servir en français, de prendre des mesures pour intégrer les immigrants, pour, tu sais, promouvoir le français, mais il n'y a personne qui va me faire croire que l'enjeu de la qualité de la langue est non pertinent. Et dans une société où les gens lisent mal, parlent mal, où il y a, je sais pas, 30% d'analphabètes fonctionnels, quand en plus les gens, plusieurs carburent aux anglicismes, et moi-même, j'en suis, là, je fais pas le procès à personne, là. Moi, je vis la moitié de ma vie en anglais, je sais que je fais ces erreurs-là. Je trouve que c'est un message fort intéressant pour dire, écoutez, oui, il faut se battre pour le français, mais il faut aussi mieux le parler. Puis moi, c'est juste comme ça que je l'ai vu, cette pub-là.
Ouais, peut-être. Mais est-ce que tu penses que les jeunes vont arrêter d'introduire des anglicismes dans leurs phrases? Puis des likes, puis des... Parce que le gouvernement
non,
a fait une publicité.
Non, mais ça donne les moyens. Moi, je comme parent, cette pub-là te donne les moyens d'avoir une discussion avec tes ados là-dessus. Puis ils vont en parler, puis peut-être qu'ils vont en parler dans les écoles. Je pense que ça lance une réflexion. Ça ne résout aucun problème, mais ça lance un débat auprès des jeunes. Mais moi, je pense plus largement dans l'ensemble de la société sur la question de la qualité du français. Ça, c'est un débat auquel moi, je crois beaucoup.
Emmanuel, merci.
Très bien,
à demain.
Au revoir.
Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Mario.
Alors décidément, c'est quand on pense que le Canadien, et ça nous arrive à chaque fois, on pense que le Canadien va avoir une soirée horrible, qu'il en a une bonne.
Ouais, vraiment.
Ben, faut dire qu'ils ont eu de l'aide hier. Là. Ouais. Il n'y avait pas de gardien dans l'autre filet. Là. Ça aide.
On va prendre le résultat, 6-4. Donc, Canadien qui a eu une bonne soirée de ce côté-là, mais on s'est fait dominer là, toute la soirée. Là. Ils ont pris les devants 2-0 en dedans de 5 minutes. Après, oui, il a été faible, mais en même temps, on a fait des shots. Là,
non, non, 4 buts, quoi? 4 buts dans les 10 dernières minutes de la première période pour ramener ça de 0-2 à 4-2. Ça, il y a eu quelque chose, là.
Ouais, mais, oui. Puis, tu sais, Gourianov, là, la shot qu'il a faite du revers, là, c'était précis en hein, Moses. Ilonen, même chose. Edmondson, ben, il y avait la vue voilée. Puis Hoffman, on connaît quand même son lancer. Fait que, oui, il n'a pas été bon, j'arrive.
Ouais, je comprends que les 4 buts, c'est ça, mais le résultat, c'est qu'il n'en arrêtait pas une.
Exact.
Ça, aide l'attaque du Canadien.
Les gars en défensive à Pittsburgh n'étaient pas nécessairement brillants non plus. Par contre, à l'autre bout, Samuel Montembeau, puis ça, on le dit depuis le début de l'année, quand il est dans sa game, même s'il en a laissé passer 4, hier, il a fait des arrêts. Parce qu'à partir de ce moment-là, là, les Pingouins, là, à 4-2, dans la chambre entre la 1 et la 2, ils se sont dit, nous autres, on va aller chercher cette partie-là. Là. Et là, là, ils ont grugé, sont revenus et ils nous ont complètement dominé. Là. Le Canadien réussissait pas à sortir de sa zone. En troisième, je sais qu'on avait le match de la veille dans le corps, là, mais c'était pathétique de nous regarder. Reste que Anthony Richard est sorti de nulle part avec une belle poussée, un beau lancer lui aussi. Et on est allé chercher le match 6-4 finalement. Ce qui nous fait pas de différence, on va se le dire. Nous autres pères gang, là, on fera pas les séries. Mais pour les Pingouins, eux autres dans la chambre après.
Ouais, parce qu'eux, ils ont besoin des points, là. Hein?
Ben
au
oui,
classement.
Parce que leur place en série est pas assurée. Si tu finis 8e, tu vas affronter Boston. Tu veux pas affronter Boston, là. Fait que tu veux finir 7 puis affronter la Caroline. Je sais que la Caroline, c'est une bonne équipe aussi, mais tu as un petit peu plus de chance contre la Caroline que contre les Bruins.
Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle pour les Pingouins, par exemple.
Vas-y.
Ben, avec une tenue devant le filet, comme on a vu hier en série, tu gagnes pas, là. Ni non, contre la Caroline, ni contre Boston, ni contre personne, là.
Ben, on va se le dire, les Pingouins ne gagneront pas en série de toute façon. Moi, je les ai trouvés très audacieux de signer le Big Three, Malkin, Le Temps, Crosby, au lieu de les monnayer et de faire un reset, être capable de repartir. Tu sais, tu vas chercher 2-3 jeunes pour Malkin, mettons. Là. Ben, quand les autres vont partir, eux autres vont arriver. Là, parce que les Pingouins ne sont pas assez forts pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Là. Une ronde de série, ça, on ne sait jamais, Mario. On l'a déjà vu. Là. Il peut arriver quelque chose. Mais 2 rondes, 3 rondes, puis te rendre en finale, ça j'y crois plus. Là. Fait que ouais, pour les Pingouins, c'est ça. C'est vrai. Ça va être la fin des haricots. Mais parlons du Canadien.
Oui.
Christian Dvorak, ça vient de sortir.
Qu'est-ce qu'il y a là?
Ne reviendra pas au jeu. C'est fini pour l'année. Il s'est fait opérer dans un hôpital de New York, blessure au genou. Donc, il vient de se faire opérer pour régler ce problème-là. Fait que nous
la bonne nouvelle, c'est que quand ils sont finis pour la saison, là, on a de la transparence et ils nous disent ce qu'ils ont.
Oui, mais quand il y a des chances qu'ils reviennent au jeu, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, parlant de ça, là, hey, Brendan Gallagher, là, qu'on nous avait dit 6 semaines, ça va avoir été pour l'année, finalement. C'est beaucoup de sous sur la masse salariale.
C'est un gars qui est parti à quelle date, lui, autour du jour de l'an?
Ouais, à l'entour de Noël, là, dans ce coin-là. Fait que, tu sais, janvier, février, mars et la mi-avril, sans ton Brendan Gallagher.
Enfin,
bon. Canadien, qu'on parle de Jaden Struble.
Ouais, c'est ça. Qui est-il? Défenseur?
C'est un excellent défenseur qui joue pour les Huskies de l'Université Northeastern. On entend beaucoup de bien de ce défenseur-là, là, de ceux qui suivent évidemment les recrues et les joueurs qui appartiennent aux Canadiens de Montréal le vantent continuellement. Puis ça se jasait depuis un petit bout de temps. Là. Je lisais ça, il va se passer de quoi avec Struble. Donc on a fini par le signer. On l'envoie avec le Rocket de Laval. Kent Hughes a dit que oui, c'est un excellent défenseur, mais qu'il avait besoin de millage dans la Ligue américaine, qui n'est pas rendu encore à être prêt pour jouer avec les Canadiens.
Mais est-ce que c'est un produit du recrutement du dernier repêchage ou d'un repêchage précédent?
Non, c'est un repêchage précédent. Puis là, tu sais, tu m'ouvres une porte à parler, là, j'ai pas exactement, mais ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on l'a repêché. Ça, là, c'est un des problèmes de la Ligue junior majeure du Québec et de tout le hockey canadien. C'est quand tu te fais repêcher puis que tu as joué dans la CHL, tu as 2 ans pour te faire signer par les équipes. Ce qui rend des fois certaines équipes frileuses. Ils vont attendre à 18 ans, à 19 ans pour te repêcher ou ils vont tout simplement t'offrir une invitation pour te joindre. Alors que du côté des États-Unis, tu as 4 ans une fois que tu es repêché. Fait que là, tu le repêches à 17, puis là, tu le regardes aller. 18, 19, 20, ses droits t'appartiennent encore. Tu comprends? Fait que ça leur donne un avantage parce que tu as beaucoup plus de temps avant de les signer. Ici, au bout de 2 ans, si tu ne les as pas signés, comme ceux qui vont se faire repêcher cette année, là, mettons, mais d'ici 2 ans, tu leur offres un contrat, sinon ils appartiennent plus à personne, puis n'importe qui peut venir les chercher. Bref, c'est un gars qui arrive à maturité. Puis c'est un beau projet, c'est ce que je lis. C'est un gars offensif, un gars de 6 pieds qui pourrait se joindre à la brigade défensive du Canadien de Montréal. Puis comme Laval va faire les séries cette année, il va pouvoir goûter à cette expérience-là et tout, donc c'est très positif. Et moi, ça me fait dire que le Canadien cette année ne vont pas repêcher aucun défenseur dans les premières rondes.
Parce qu'on commence à avoir du trafic à la défense, là.
Tu sais, là, t'as Struble, t'as Lane Hudson aussi, là, que t'as sûrement entendu son nom, là. C'est celui qui s'est pointé l'année passée lors des rencontres, là, pour le draft, le repêchage en bon français, puis qui est arrivé avec un papier de son médecin pour dire « Je vais encore grandir, je vais encore grossir. » Il est tout petit, mais il est phénoménal. Il vient d'être nommé défenseur de l'année, là, dans la NCAA, justement. Fait que là, t'as lui en plus. T'as ceux qui sont actuellement avec le Canadien, donc Goulet, Harris, Chekai, t'as Logan Mailloux éventuellement qui va sûrement vouloir se tailler une place, puis t'as Justin Barron. Je sais pas comment t'as aimé son jeu hier, mais ça a paru qu'il était de retour dans l'alignement. Il fait de très belles
premières passes. Le but gagnant d'Anthony Richard, on dit un beau lancer de Richard, mais puis t'as dit tantôt qu'il est sorti de nulle part, mais il est sorti au bout d'une passe de Barron, si je me trompe pas, là.
Je pense que c'est Barron, puis il y en a une autre aussi sur le but d'Hoffman. C'est lui dans le fond qui a entamé le retour du Canadien dans ce match-là.
Une passe clé sur le premier but qui amorce le retour, puis une passe clé sur le but gagnant. Tu commences à parler d'une contribution dans le match, là.
Oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur en défensive, mais s'il t'apporte, effectivement, je suis en train de regarder, c'est une passe de Barron sur le but de Richard. S'il t'apporte cette contribution-là offensive, une belle relance, tu as besoin d'un gars comme ça. Alors, on va avoir besoin d'attaquants et de gardiens, je pense, au draft cette année.
Samuel Poulin, prêt à revenir au jeu?
Ouais, Samuel Poulin, qui avait quitté, on savait que c'était pour des raisons personnelles, qui a fait un beau message aujourd'hui. Il a annoncé donc qu'il revient. Il est parti au Penguins de Pittsburgh. Il va se rapporter à Wilkes-Barre, qui est le club-école des Penguins de Pittsburgh. Et dans son message, là, il a expliqué qu'il a pris du temps pour lui et tout et tout. Mais il a aussi dit il faut continuer à parler de santé mentale. C'est important. Parlez-en avec vos jeunes, parlez-en avec votre entourage. Donc, tu sais, je trouve ça bien que les athlètes, mais tu sais, ils auraient pu faire à croire n'importe quoi. Donc, ils affichent que c'était ça. C'était quoi? On ne sait pas. Il y a eu des problèmes de santé mentale. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense dans les différents sports. La pression, le fait de faire ça 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours par année. Je lisais récemment la mère de Connor Bedard qui se vante qu'il n'a jamais mangé du McDo ou du fast-food, là, puis qu'il n'a jamais pris un verre. Mais tu sais, à un moment donné, ça peut rattraper ça un jour là, dans la vie. Là, bref, parlons-en, prenons soin de nos jeunes, surtout s'ils font des sports d'élite. C'est un peu le message de Samuel Poulin aujourd'hui, puis on va lui souhaiter bonne chance.
Il reste 15 secondes. Aaron Rodgers, c'est pas encore fait avec les Jets, là.
Non, mais il a demandé à se faire échanger aux Jets. Il agit comme s'il était joueur autonome, mais il appartient aux Packers. Fait que là, les Jets, eux autres, il faut qu'ils transigent. Hey, les Packers...
Puis là, il dit aux Jets qui signait comme receveur de passe pour lui plaire. C'est assez spécial.
Ça va sûrement se faire.
Hey, salut.
Salut.
Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
Notre duo politique aujourd'hui, Mario et Philippe-Vincent Foisy. Alors, encore beaucoup de chaleur autour de la SAC, là, questions nombreuses en chambre. François Legault qui a fait un mea culpa. Mario, qui va prendre le blâme en bout de ligne? Là? On voit que la haute direction de la SAC, en tout cas, est au centre de la mire.
Oui, mais ils sont les premiers responsables, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'il y a aussi une imputabilité politique? Moi, je pense qu'il y en a une, un bout au moins, pour le service d'authentification gouvernementale dont le ministère était responsable. Mais, tu sais, François Legault, aujourd'hui, a fait exactement le contraire de ce qu'avait fait Éric Kerr la semaine passée dans sa sortie ratée, en disant, même si, sincèrement, là, la responsabilité de François Legault est très, très loin... Il a dit, garde, je suis premier ministre du Québec, je dois prendre une part de responsabilité parce que c'est aussi jusqu'à un certain point ce que le public veut entendre, là, que quelqu'un est responsable de quelque chose, puis au moins de son bout à lui. En même temps, on comprend, là, c'est plus aussi pire que c'était. Les problèmes se règlent à la SAC, en tout cas pour une partie. Mais l'opposition, il y a dans l'opposition une volonté de coller cette affaire-là au gouvernement parce que l'opposition vit une frustration, un gouvernement un peu teflon, puis qu'il y a des problèmes, les urgences, etc., mais que le gouvernement s'en sort toujours puis que ça n'affecte pas. Et là, on se dit, il y a eu une crise à la SAC et il faut vraiment coller au gouvernement, à la CAQ, une responsabilité politique pour les problèmes.
Oui. Philippe-Vincent, le ministre Kerr, lui, là, qui a été qualifié de simple conseiller hein, dans toute cette histoire-là par le premier ministre, qui a un petit peu pris le mort aux dents là, aujourd'hui après une question de l'opposition solidaire. On écoute un extrait.
Ma question était simple. Quels conseils il a donné durant les 4 dernières années et lesquels n'ont pas été suivis?
La réponse du ministre.
Madame la Présidente, je veux dire, à lire sa question comme un automate, c'est lui qui a l'air d'un mauvais programme informatique, là.
Meilleure défense, c'est l'attaque. En tout cas, clairement, le ministre ne veut pas ramasser les pots cassés, là.
Ouais. Hein? Non, sauf qu'en même temps, en ce moment, dans cette situation-là, Éric Kerr, ça reste le maillon faible du gouvernement. Geneviève Guilbeault est revenue de voyage, a mis en place des mesures rapidement pour montrer qu'elle prenait les choses en main, ce qui a rapidement calmé la situation. François Legault, aujourd'hui, a fait son mea culpa, alors qu'Éric Kerr, qui a commencé en disant qu'il fallait l'encenser, qui est finalement revenu, il était accompagnateur, mais on ne l'a pas accompagné parce qu'en bout de ligne, il y avait eu le feu vert. Finalement, il est juste conseiller du gouvernement pour la transition, mais on lui a dit que tout était beau, puis il n'a pas vraiment posé de questions. Éric Kerr, en ce moment, si j'étais au gouvernement, je serais inquiet parce que ça va ou ça risque de lui coller s'il n'arrive pas à mieux gérer cette situation-là. Puis en bout de ligne, ça va être à la SAQ et à ses dirigeants d'être imputables. C'est eux qui ont pris cette décision-là, c'est eux qui ont géré cette crise-là et il ne faudrait pas que ça fasse comme dans le scandale de Paix Phoenix et que finalement les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires restent en poste, une petite tape sur les mains puis on fasse comme si de rien n'était. Là, ça prend de l'imputabilité. Ouais. Mais politiquement, le gouvernement doit faire attention à Éric Kerr parce que ça risque de lui coller.
Un très beau mot quand même, imputabilité. Enfin, on verra. Parlons de cette campagne full fun hein, sur le français. Ça n'a pas été un succès sur les réseaux sociaux. Là. Vous avez apprécié, c'est utile, c'est une approche qui va porter, Mario?
Moi, j'ai pas trouvé ça bon du tout, si on me le demande. Ça veut pas dire que j'ai raison, j'ai peut-être tort. Moi, j'ai deux affaires... Moi, si on me demande là, ce qui... Je suis très inquiet pour l'avenir du français, mais si on me demande ce qui m'inquiète, le fait que les jeunes insèrent beaucoup d'anglicisme, je le sais, là, je l'entends, dans leurs phrases, si on pouvait le corriger, je dirais, corrigeons-le, mais ça me paraît pas être au sommet, là, le français langue de travail, l'intégration des nouveaux arrivants. Je trouve qu'il y a des zones plus sensibles que celles-là. C'est mon impression. Deuxièmement, sur ce phénomène précis de comment les jeunes parlent, je suis pas certain que de toute façon, la campagne atteint sa cible. J'ai l'impression que ça passe un peu dans le beurre. Ça fait que je suis pas très impressionné.
Philippe Vincent, est-ce que ça vaut l'investissement d'un demi-million?
Si on est pour essayer de convaincre les jeunes, parce que ça s'adresse ultimement aux jeunes, de changer les anglicismes, c'est pas en riant d'eux qu'on va y arriver. Ceci dit, c'est pas juste les jeunes qui utilisent les anglicismes. Là, Christian Dubé utilisait les colonnes du Temple vont shaker il y a quelques jours. Donc, des anglicismes, on en utilise beaucoup, énormément. On aurait peut-être dû utiliser le caribou plus que le faucon, hein, parce qu'on a coupé presque partout, surtout en éducation. Après ça, on se demande pourquoi le français est en péril alors qu'on coupe à l'école notamment. Donc, c'est un problème plus structurel ici auquel il faudrait s'attaquer. Mais bon, on en parle. Ça peut être réussi pour ça. Peut-être que dans les maisons ce soir, il va y avoir des discussions sur les anglicismes. Et peut-être que quand on va penser ou dire un anglicisme, on va avoir l'image du faucon en tête. Puis qu'on va y réfléchir un petit peu. Mais on ne s'attaque vraiment pas au fond du problème sur le français et sa survie.
Je serais curieuse de savoir ce que des Français pourraient penser de la campagne en question. On va terminer avec
c'est
le dossier.
Tip-top.
Comment?
C'est tip-top, du coup.
Oui, du coup, c'est sûr. On va finir avec le dossier de l'ingérence chinoise dans nos élections. L'éminent Canadien, le rapporteur spécial, a été nommé. Mario, c'est un choix judicieux, David Johnston?
Oui. Oui, la personne, c'est un choix judicieux. Je crois plus ou moins au concept de rapporteur spécial. Ça reste pour moi assez compliqué, cette affaire-là, puis qu'est-ce qu'on vise vraiment, sinon gagner du temps. Mais oui, mais j'ai beaucoup de respect pour M. Johnston. À mon avis, c'était l'un des meilleurs choix que pouvait faire Justin Trudeau. Ça reste bizarre, le mandat. Là. Quel est le mandat? On connaît pas la durée. On connaît pas exactement qu'est-ce qu'on attend. On semble dire que M. Johnston, on va lui demander de s'asseoir avec le gouvernement. Mais là, est-ce qu'il est rapporteur spécial, enquêteur, va sur le terrain se faire sa propre idée ou est-ce qu'il arrange un mandat avec le gouvernement? C'est là, c'est dans le mandat, moi, que je reste avec beaucoup de points d'interrogation.
Ça dit, c'est pas demain que les oppositions vont obtenir la comparution de la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Philippe Vincent?
Non, il y a toujours de l'obstruction parlementaire dans le comité de la procédure. On dit du côté des libéraux que ça ne se fait pas faire témoigner des conseillers politiques alors que Mme Telford est quand même déjà venue deux fois en comité. C'est un peu particulier comme exercice où les libéraux essaient de gagner du temps, alors que ce serait intéressant d'entendre Mme Telford, ce serait intéressant de l'entendre sur ce qu'elle savait sur l'ingérence lorsque les services de sécurité sont venus lui parler d'un candidat libéral. Pourquoi il n'y a rien qui a été fait au parti? Peut-être qu'un jour, si jamais M. Johnston disait que ça prend une commission d'enquête ou une enquête ou quelque chose du genre, parce que je vois mal qu'il arrive en disant « OK, tout est beau, il n'y a pas de problème au Canada », surtout quand on regarde les sondages, bien peut-être que ce serait dans le cadre de ce genre d'enquête-là qu'on pourrait avoir certaines réponses, espérons-le.
Oui, 72 % des répondants à un sondage léger qui veulent une enquête publique indépendante. Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À demain.
Bonne journée.
Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission du jour. C'est un plaisir d'être là pour vous, de vous accompagner, de vous raconter un peu cette journée en actualité. Bonne soirée, à demain, 15h30, on se retrouve.
Cube Radio.